dans le panier de Lisa. Lisa Giraud-Taylor.
Bonjour et bienvenue dans le panier de Lisa qui va parler de ciné, de séries, de documentaires, enfin en tous les cas cette fois-ci de ciné et de séries. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que nous ne vous avons pas trop manqué, moi et le lutin, enfin lutin et moi. Écoutez, on a survécu au mois de septembre, hein? Oui, oh, bah, il reste 2 jours, mais enfin 2 jours en l'occurrence. Enfin aujourd'hui et demain. Mais, ah bah si. Mais bon, voilà, on s'en est sorti, on est là, on est content de vous retrouver et j'espère que mes petits camarades vous comblent toute la semaine, voilà, entre deux attentes. Alors, la semaine prochaine, nous serons de retour, hein, puisque, vous le savez, il y a à peu près 2 émissions par mois, une au début du mois et une à la fin. Donc, je rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi ou qui n'étaient pas là le premier lundi de septembre, eh bien, le premier lundi de septembre, enfin, le premier du mois, lundi du mois, on fait tout ce qui est bilan et point lecture et ce que je vais lire le mois suivant. Et à la fin du mois, le dernier lundi du mois, quel qu'il soit, quel que soit le jour, eh bien, vous aurez droit à un panier spécial ciné, série, documentaire, expo, enfin bref, tout ce que vous voulez. Alors, si on a le temps et que le mois est particulièrement long, on pourra en faire un au milieu, mais on n'est pas... Non, hein. Ah, bah, le lutin me dit, ah, pas sûr. Voilà, donc là, on se retrouve lundi prochain pour le point lecture du mois de septembre et le book haul du mois de septembre. En tous les cas, le book haul, la pile à lire. Et d'ici là, on va parler d'un film. Mais avant ça, on va écouter une chanson dont un des mots du titre fait référence au titre du film dont on va parler. Oui, on a essayé avec le lutin. On a promis avec le lutin, on s'est dit on va essayer de mettre des morceaux qui collent. Alors oui, on doit faire aussi du MP3. On va essayer. Voilà. Alors plus ou moins toutes les chansons qui sont diffusées dans le panier spécial ciné, docu, machin, vont être pratiquement 90% des chansons du MP3 qu'on n'a pas encore fini de diffuser. Voilà, allez, on écoute Sophie Elix Bextor, Murder on the Dance Floor. Bah, vous vous demandez sur Murder on the Dance Floor, lequel des mots colle au titre du film dont on va parler juste après.
It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so and so and so and so and so and so and so, I'll have to. on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove. Hey, it's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ.
Alors, ceux qui avaient suivi, ceux qui l'ont déjà vu, et ceux qui connaissent à peu près l'esprit torturé de Lisa avaient trouvé, c'est donc Murder. facile. Alors, on va parler du dernier film de Chris Columbus qui est sur Netflix, qui s'appelle The Tuesday Murder Club, donc le Murder Club du lundi, du jeudi, je crois qu'il s'appelle, ou le jeudi Club Murder, ou le Meurtre Club du jeudi. Enfin bon, bref, moi je l'ai mis en anglais parce que je l'ai vu en VO, on l'a vu en VO. Alors, on est un petit peu dans une bande de retraités qui est passionnée par les affaires classées, les cold cases, et qui va se retrouver plongée au cœur d'une véritable enquête pour meurtre dans leur maison de retraite. Alors, c'est tiré, adapté d'un roman à succès que on l'avait pas lu, alors comme ça au moins ça c'était fait. Alors attention, rien de révolutionnaire là-dedans, rien de renversant, c'est vraiment un petit film sympathique pour un dimanche pluvieux, et Dieu seul sait que nous n'en avons. Écoutez, après la canicule que cet été, maintenant on a la flotte, hein, on peut pas tout avoir. Et on a résumé ça avec le lutin en disant que c'était une sorte de club des 5, version 3e âge dans un EHPAD de luxe, hein, au sein de la campagne anglaise. Parce que en gros, leur EHPAD c'est quand même un manoir. C'est du luxe, hein. Ouais, bah, c'est du grand luxe, voilà. Et c'est vraiment la version 3e âge du Club des 5, à part qu'ils sont effectivement 4, mais qu'il n'y a pas d'animal. Voilà, parce que le Club des 5, je rappelle que Dagobert, enfin, en français, Timmy en anglais, c'est un chien, hein, le 5, voilà. Alors, honnêtement, vous avez une distribution haut de gamme. En tête de gondole, vous avez Hélène Mirren, toujours parfaite, qui interprète le rôle d'une espèce de Miss Marple, puisque dans la vie, on l'apprend, dans sa vie antérieure, avant la maison de retraite, elle était un ancien agent du MI6, donc des services secrets extérieurs britanniques. Vous avez Ben Kingsley, Pierce Brosnan et David Tennant, vous avez Jonathan Pryce. Inutile de vous dire qu'il y a du très gros niveau britannique. Alors, l'enquête est minimaliste. C'est assez cousu de fil blanc. Alors comme ça, je sais que ça donne pas très très envie. Mais honnêtement, on voit arriver... Alors, je veux le dire, on voit arriver la fin, les rebondissements, les passes d'armes, les bons et les mauvais personnes, good et bad cop, si vous voulez. Mais ce côté so british, cultivé avec sérieux, et toute l'autodérision des acteurs qui se moquent de leur âge, et même de leur accent, et même de leur façon de vivre, c'est vraiment très très bon. En plus, ça joue... à la fois sur l'infantilisation des personnes âgées, soit par les soignants, soit par les enfants, mais aussi ça pique quand même quelques travers sur ces enfants ingrats, hein, qui viennent le dimanche entre 14h et 14h12 et qui se permettent de dire « attention, tu devrais pas faire ça », alors qu'en gros, c'est des personnes qui vous ont élevé. Hein. Voilà. Donc ça pique aussi quand même, mais c'est toujours avec cette espèce de recul, d'autodérision, d'humour très british. Après, je vous dis, c'est ce qu'ils appellent maintenant un cosy mystery, un cosy murder, etc. C'est vraiment ça. Voilà. C'est un petit film sympatoche, avec quelques très bons traits d'humour. Il y a un peu de noirceur quand même, mais qui adoucit. Hein. C'est pas censé être un truc trash ou gore. Et avec une élégance, somme toute, très très britannique. Honnêtement, nous, ça nous a suffi à notre bonheur. En plus, perso, moi j'adore Hélène Mirren. Je ne m'en lasse jamais, et elle semble beaucoup aimer jouer avec Pierce Brosnan, hein, puisqu'elle était sa femme dans l'excellente série Mob Blonde dont je vous ai parlé, ou peut-être pas, j'en sais rien, est-ce que je leur ai parlé de Mob Blonde? Non, alors si je ne vous ai pas parlé de Mob Blonde, c'est une série britannique sur la pègre anglaise avec deux familles qui s'affrontent pour régner sur les affaires illégales, avec le couple Pierce Brosnan, Hélène Mirren, qui ferait part un régiment d'infanterie, ah, aussi quand même, et Tom Hardy, qui est leur homme de main et qui est qui est du Tom Hardy, hein, du cran au vol. Franchement, c'est une série. Alors attention, c'est du Guy Ritchie. Sexe, drogue, rock'n'roll, violence, sang, découpage, etc., vulgarité à tous étages. N'y allez pas si vous aimez pas. Ah, non, on vous aura prévenu. Voilà, mais sinon, c'est excellente série, ma blonde. Donc franchement, pour The Tuesday Murder Club, c'est vraiment très choupiné. Je vous dis, un dimanche après-midi, il pleut, vous en avez ras-le-bol, vous mettez ça, ça vous met la tête ailleurs. En plus, il y a un très très bel hommage à Sa Majesté Elisabeth II, de la part d'Hélène Mirren, puisqu'à un moment donné, son mari qui est atteint d'Alzheimer, en fait, elle va planquer, elle va faire une planque avec sa copine, et elle se déguise en gros, Elisabeth II, la même tenue qu'elle avait dans The Queen, le film qu'elle a fait, et exactement la même tenue, et elle enlève les lunettes de la même façon. Et donc son mari, qui a Alzheimer, mais qui, sur le coup, se rappelle de cette histoire-là, lui dit « c'est fou ce que tu ressembles à la reine », et ce jour-là, le jour de son enterrement, c'était vraiment très très triste, etc. Donc en fait, il y a un clin d'œil excellent, non seulement un hommage à la souveraine décédée, mais surtout aussi de Hélène Mirren à son rôle emblématique que tout le monde connaît. Voilà. Donc The Tuesday Murder Club, Chris Columbus, qui c'est qui... Chris Columbus, Maman j'ai raté l'avion, et le début de la saga Harry Potter. Voilà, celui qui a vraiment fait les bases de Harry Potter au ciné, si vous voulez. Voilà. Donc c'est pas un chef-d'œuvre, ça se laisse voir, c'est agréable, ça fait plaisir. Écoutez, on n'en demande pas plus, hein, parce qu'on est en automne. Voilà, il nous faut des trucs un peu sympathiques. Enfin, moi perso, j'adore l'automne et l'hiver, mais le lutin, pas du tout, il déprime. Là, il est rentré dans la déprime, hein, le lutin, je vous l'ai dit, donc il faut des trucs comme ça. Allez. Au suivant, on va parler de séries jusqu'à la fin. La fin, ça sera un documentaire de séries. Alors là, celle qui vient, c'est le coup de cœur, je pense, de l'année, presque de l'année, pour nous deux. On se quitte en musique avec Nouveau Western de MC Solar. Bah oui, là, il y a un gros indice quand même. Ah bah si, plus gros. Plus gros, c'est le Grand Canyon, hein.
Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessein. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur, la rivière sans retour d'Otto Preminger. Tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc, oncle Sam me duc. Hollywood nous burn, Hollywood burn, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il souhaite des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une douche cheveux se part sous, des types se baignent pour des motifs utiles comme dans les nouveaux westerns. Les têtes sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien le mal, le Kuluk et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte c'est le décor. La vie ne fait pas le moine dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le freine. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Parfois, la vie ressemble à une balle perdue. Dans le système moderne se noie l'individu. Pour rester lucide, il s'abreuvait de brandy. Désormais, on brandit et les shit et baby. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours à contre-jour, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas dans ce que l'on nomme le nouveau western? Yeah. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Moderne. Le nouveau western. Sitting Bull. Koshi, Calamity Jane, Jam, West, Jam, Lisquo, Liscal, Tomahawk, le nouveau western.
Alors, évidemment, on va parler western. Et western, quelle série? C'est la série 1883 de Taylor Sheridan. Oui, je sais, on arrive avec 4000 ans de retard sur tout le monde. Puisque tout le monde a vu au moins Yellowstone, les 5 saisons, et au moins ces 2 spin-offs, ben nous, on arrive là. Voilà, parce qu'on est un peu long à la détente avec le lutin. Donc, voilà, on a décidé de regarder. Puisque ça faisait un moment que tout le monde nous en parlait, donc on s'est dit, ah bah, on va faire comme tout le monde, on va les voir. Alors, je dois avouer que lui, les westerns, c'est pas sa came. Moi, Kevin Costner, au début, Yellowstone, ça me disait pas trop. Et là, on me l'a vendu en me disant, ouais, non, mais là, c'est vraiment du lourd, vas-y. Donc, effectivement, c'est du lourd. Je pense qu'après la déception qu'on a eue avec The Bear cet été, notamment la quatrième saison qui est vraiment très en dents de scie, sauf le dernier épisode qui est un peu émouvant, bah alors le reste, c'est vraiment pas bon. Enfin, en tous les cas, c'est pas au niveau de ce que c'était les 3 premières saisons. On s'est dit, il nous faut quelque chose, revenir aux fondamentaux western. Bon. Alors, je dois avouer que je suis fan des westerns depuis que je suis toute petite. Hein. Je pense que j'ai quasiment vu tous les classiques, que ce soit avec un de mes grands-pères qui était vraiment grand fan de ce cinéma-là, qui m'a fait voir tous les westerns qui avaient été faits depuis le début du cinéma. Et le fait qu'à l'université, j'avais pris histoire du cinéma et qu'on avait 5 heures de cours plus... des films à voir dans la semaine, voilà, en cinéma club ou seul chez nous, etc. Donc honnêtement, bon, j'en ai vu. Et là, bah, ça a été la claque du siècle. Voilà, on a dévoré la série lors d'un voyage en train, donc on a vu pratiquement 6 épisodes. Heureusement qu'il était long ce truc. Ça nous a bien complé la longueur de... Oui, parce que nos amis de la SNCF étaient encore en retard, mais comme d'habitude. Et donc on a regardé les 2 derniers épisodes tranquille à la maison. Vraiment tranquille, mais vraiment une claque. Voilà, une claque. Moi j'ai été vraiment lutin un peu moins à un moment donné, mais moi vraiment j'ai été happée par ces pionniers qui débarquent dans l'Ouest américain. La scène d'ouverture de la série... vous cloue sur place, vous glace d'effroi, et cette voix off de cette jeune femme dont on va suivre le destin tragique est absolument, mais merveilleuse, cette scène-là, vraiment. Cette fille a une force de caractère, un destin qui va nous clouer sur place. On sait bien que c'est elle, hein, l'avenir des Dutton, donc en fait, on va découvrir la famille Dutton, qui débarque, en fait... d'Irlande, parce qu'ils étaient très très pauvres, ils sont partis aux États-Unis pour un monde meilleur, et puis arrivés sur la terre promise d'Amérique, on leur signale qu'il y a des plaines, des grandes plaines vierges de personnes, et que tout le monde peut aller là-bas, s'installer dans un coin, et que ce coin-là devient le sien. Donc ils vont partir pour le Montana, et on va les suivre. Alors, tous ces gens qui fuyaient la pauvreté, qui aspiraient en fait qu'à une chose, hein, c'était se poser quelque part, cultiver leur terre, élever des animaux, vivre tranquillement, bah, vont tous découvrir la violence, la cupidité, l'horreur des mauvais traitements envers les Amérindiens, mais envers ces gens qui arrivent, de la part de ceux qui sont déjà implantés depuis quelques temps, même quelquefois très peu de temps avant. La cruauté de l'homme blanc par rapport à tout le monde, hommes, femmes, enfants, animaux, allez, vas-y, un complet veston. Et surtout le destin abominable de certaines familles et de certaines tribus. Donc on le sait, on le voit, mais les westerns que nous on a vus, qui étaient très manichéens, il fallait le dire, hein, les bons c'était les blancs, les méchants c'était les indiens, enfin les amérindiens, les natifs, ce que vous voulez, comme dénomination. À l'époque on disait indiens, donc voilà, c'était, on jouait, à l'époque on jouait aux cowboys indiens hein, dans la cour, hein, donc voilà, tous ces natifs et ces westerns étaient vraiment, voilà, c'était très très basique. L'homme était forcément grand, fort, beau, machin, charismatique. La fille était forcément ou une mère de famille ou une pute. Bah ici, il faut le dire comme c'était. Ou une fille de saloon qui tournait mieux après. Voilà, il n'y avait pas de truc. Mais là, par contre, alors cette série de 1883, ça se trouve donc déjà après la guerre de sécession, c'est véritablement, il n'y a aucune édulcoration de quoi que ce soit. Taylor Sheridan a travaillé sur l'histoire de son pays sans gommer l'horreur de ce qu'a pu être la violence, la méchanceté, les meurtres, tout ce qu'on peut imaginer dans une conquête de l'Ouest qui ne nous avait pas été véritablement montrée. Alors quand on pense que ça va se calmer, on se reprend un coup sur la tête et on pleure, hein, parce que si, quand même. La direction photo est magnifique, les grands espaces filmés sont sublimes, les costumes, il n'y a rien à redire, les décors, rien à redire, les acteurs sont tous très bons, le scénario, la mise en scène, il n'y a rien qui est mauvais dans ce truc-là, mais vraiment absolument rien du tout. Voilà. Le dernier épisode, moi honnêtement j'aurais vraiment aimé qu'il y ait une deuxième saison. Sérieusement, j'aurais préféré revoir encore l'installation, etc. On montre aussi tout ce qui est post-guerre de sécession, donc cette scission de l'Amérique qui existe toujours, hein, et on le voit de plus en plus, avec ce souci des Amérindiens, des immigrants, des femmes, de ces terres, des terres qui sont vierges mais qui sont pas voilà, qui ont été annexées voire volées, spoliées on va dire hein, à d'autres personnes. Le souci avec les Noirs qui ont été affranchis, ceux qui étaient déjà libres avant la guerre de sécession. Je rappelle qu'il y avait des cow-boys noirs, si ils ont existé. Il faut vous renseigner si voilà. Il y avait un document fascinant il y a quelque temps sur Arte, justement sur ça. Moi, j'avais mes copines qui m'en avaient déjà parlé, mais comme quoi, voilà, ça commence à sortir. Et bien sûr, les animaux, hein, ces pauvres bisons qui ont payé un lourd tribut hein, pour la cause. Voilà, donc c'est vraiment, il faut saluer le travail de Taylor Sheridan sur cette série, sur l'écriture, sur la réalisation, sur le casting, sur les décors, sur les dialogues, sur tout. Voilà, donc 1883, vraiment, c'est la série, c'est vraiment la série qu'on a le plus aimée. Voilà, vraiment, actuellement, c'est vraiment la série qui fait partie de notre top 10 de l'année et qui est en tête. Hein, donc, il reste très peu de temps pour qu'elle soit détrônée. Il faudrait vraiment que ça soit exceptionnel derrière. Hein, voilà, donc 1883, donc c'est sur Paramount. Nous, on l'a vu sur MyCanal. Paramount, donc je sais pas où vous pouvez le voir, mais en tous les cas, si vous avez Paramount ou MyCanal, vous le verrez. On fait une petite pause musicale avec un certain George Harrison, I've Got My Mind Set on You. Oui, alors on va dire que le monsieur porte le prénom d'un acteur qui est dans la série. Oh, c'est facile ça. Ah, bah, il n'y en a pas 10 000, hein, donc. Ah, oui, si, quand même. George Harrison, est-ce que ça t'évoque quelqu'un d'autre que qui? Eh ben voilà, il a trouvé, donc si le lutin trouve, vous avez trouvé.
I got my mind set on you. my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set.
C'était donc George Harrison avec I've Got My Mind Set On You. Alors évidemment, on va parler de la suite, hein, puisque c'est ce qu'on a fait. On a enquillé avec 1923, donc toujours de Taylor Sheridan et d'autres réalisateurs qui sont venus lui prêter main forte. Alors, on est en 1923, bah, le titre, super, en pleine, bravo Lisa, non mais vraiment bravo Lisa, oui, il est en train de me dire, oh bah là tu enfonces des portes ouvertes, bah oui, je fais ce que je peux déjà. On est en pleine prohibition aux États-Unis, on prenne la Grande Dépression, et on suit une nouvelle génération des Dutton, donc cette fois-ci qui se sont bien établis, hein, ils ont un ranch qui est bien rodé, qui est bien installé, qui est bien implanté, ils ont la reconnaissance, ils ont de l'argent, ils sont maintenant désormais riches, ils ont une sorte de pouvoir dans le Montana, et on va les suivre dans une période un peu compliquée, puisqu'il y a du vol de bétail, d'une sécheresse qui est historique, qui commence à les mettre un peu sur la paille, et c'est bien sûr une série spin-off de Yellowstone qu'on va aborder après. Ah oui, bah vous doutez bien. On ne l'a pas regardé en entier, puisqu'on a... Oh bah c'est trop long, sinon il y a 5 saisons. Voilà, donc là on est en 1923, et on va suivre deux... entre guillemets, deux couples, deux hommes et deux femmes, puisque d'un côté, on a l'héritier des Dutton qui est dans le Montana, donc qui est le patriarche et qui, en gros, hein, lutte contre des promoteurs, des gens qui veulent lui piquer son bien, la sécheresse et des attaques un peu en tout genre, parce que, bah, en fait, il est vieillissant, il a beaucoup moins de personnes qui répondent pour lui. Et de l'autre côté, on suit le petit-neveu, qui, après la Première Guerre mondiale qu'il a faite, et dont il a hérité, pour lesquelles il a hérité de nombreuses blessures psychologiques, hein, il est vraiment traumatisé par la guerre, il a décidé de s'exiler comme chasseur en Afrique. Voilà. Donc on les suit des deux côtés de l'Atlantique, et surtout on va suivre deux couples très différents. On a d'un côté, d'où le George Harrison, on a d'un côté Harrison Ford, bah excusez du peu quand même Harrison Ford, voilà, qui est toujours aussi sexy même en vieillissant, ah bah si, et sa femme n'est autre que Hélène Mirren. Excusez du peu, le couple Harrison Ford et Hélène Mirren, qui, voilà, on en rêvait, ils l'ont fait, hein, en gros. Et l'autre couple qui va se former donc en Afrique, qui est joué cette fois-ci par Julia Shafter et Brandon Skenar, je crois, qui est aussi d'ailleurs charismatique et sexy que Harrison Ford, jeune, hein. Si quand même. Voilà, le seul différence, c'est que l'histoire d'amour en Afrique est vraiment très out of Africa slash conte de fées. Elle est même le lutin. Alors, le lutin est quand même beaucoup plus tolérant avec l'histoire d'amour cucu la praline. Moi, je suis moins, quand même. Je suis plus romanesque que romantique. Et même lui, il m'a dit, ouais, non, mais là, c'est gros. Voilà, donc, pour vous dire, j'ai la caution à côté de moi. Donc, on les suit dans leurs aventures, dans les luttes, dans les peurs, les coups de la vie, la mort, le sang, les larmes, la peine, la joie, tout ce que vous voulez. Les paysages sont incroyables, que ce soit toujours dans le Montana comme en Afrique. Tout est palpable, tout est tangible. Tout a été reconstitué avec d'époque, vraiment avec une précision chirurgicale, y compris avec cette aristocratie britannique et ces colons britanniques qui sont en Afrique, la façon qu'ils ont de vivre, de traiter les gens, les animaux, etc. Montana, pareil, hein, c'est toujours aussi dur et rude. Et je vous dis, même si l'histoire d'amour africaine, entre guillemets, est un peu trop guimauve et beaucoup trop grimauve, et heureusement, les deux acteurs font passer la pilule parce qu'ils sont vraiment photogéniquement très beaux, et en plus ils ont vraiment une alchimie entre eux qui passe, qui fait, qui marche, même si c'est vrai, il y a beaucoup d'invraisemblances dans leur histoire, il y a beaucoup de choses qui sont improbables comme situation qui leur arrivent, mais voilà, ça passe. Mais simplement, on comprend les enjeux, c'est-à-dire que c'est de ce couple de vieux, entre guillemets, dans le Montana, essayent de faire revenir leur petit-neveu, parce qu'il n'y a que lui qui est l'héritier de leur ranch, et plus ou moins, il n'y a que lui qui peut prendre les armes contre les gens qui leur en veulent, parce que bah, eux, ils sont vieillissants, ils n'ont plus trop la capacité de lutter, et il y a ces lettres que le personnage d'Hélène Mirren écrit à son petit-neveu qu'il n'a pas lu parce qu'il a peur de lire ces lettres-là, et puis il ne veut plus avoir d'histoire avec sa famille là-bas. Vraiment, quand je vous dis traumatisé, le gars, qu'on va lui lire, donc il va comprendre l'enjeu, et donc c'est qui va le pousser à la deuxième saison de repartir dans le Montana pour aider sa famille. C'est vraiment un amour filial magnifique, même si c'est pas leur fils, c'est leur petit-neveu. Voilà. Il y a des scènes marquantes. Notamment la scène d'arrivée de cette jeune femme à Ellis Island dans la deuxième saison, où vraiment on voit les humiliations, les longues humiliations qu'ont subi les immigrants, et ce racisme protectionniste de ceux qui étaient, il n'y a pas très longtemps avant, aussi des immigrés. Et donc on comprend vraiment le côté brut des États-Unis, ce côté on est aux États-Unis, on est américain, vous êtes des étrangers, on vous veut pas, il y a cette violence toujours latente, et ce côté on est là pour faire de l'argent, on est là pour être les meilleurs, il y a une espèce de voilà, c'est un état d'esprit qui rentre dans les immigrants qui arrivent et qui sont donc acceptés aux États-Unis. On leur inculque ça dès Ellis Island. Donc c'est un peu, voilà, c'est comme ça. Je vous dis, le seul reproche que j'ai à faire, c'est vraiment cette histoire d'amour, un peu feu de l'amour. La fin est assez atroce quand même, pas très drôle. Mais quand on voit Yellowstone, on peut comprendre ce que ça a eu comme impact sur les générations futures. Voilà, quand on voyait les deux premières saisons de Yellowstone, c'est ce qu'on s'est fait comme réflexion, on s'est dit, ah ouais, non, mais alors voilà, on comprend pourquoi ils sont aussi bruts, et quelquefois, il y a des non-dits qui marchent pas. Voilà. Donc franchement, très bonne série de 1923, mais qui est comme je vous dis, un chouïa, mais vraiment un chouïa moins bonne que 1883. Peut-être grandement dû à ces improbables concours de circonstances dans le couple qui se forme en Afrique. C'est très très dommage, mais voilà. Surtout qu'elle, elle vient de l'aristocratie anglaise, elle n'est pas censée être... voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et donc Yellowstone, on va en parler 30 secondes, mais vraiment, parce qu'en fait, on a vu les deux premières saisons. Donc on est en 2015, on les retrouve, donc c'est vraiment les descendants des descendants des descendants. Donc Kevin Costner est en mode patriarche. Il gère sa famille et son entreprise sans concession depuis un siècle à peu près, puisque c'est 1923-2015, c'est presque un siècle. Ils ont plus que prospéré, puisqu'ils sont... leur ranch est le plus grand des États-Unis, leur pouvoir est énorme, ils ont énormément d'argent, ils règnent sur le Montana et au-delà comme des rois. Et donc lui, il a trois enfants, il a perdu sa femme et un autre fils, mais il a trois enfants qui lui restent, donc un qui est avocat et qui essaie de plaire à papa par tous les moyens, et qui a des blessures psychologiques grosses comme le Grand Canyon, et croyez-moi, on le voit assez vite. Leur Benjamin qui a été traumatisé par la mort de leur mère et qui a épousé une jeune native et donc qui s'est exilé dans la réserve indienne. Et donc forcément c'est une bombe à retardement sur pattes, hein. Ça se voit que honnêtement il part au quart de tour et qu'il suffit de très très peu pour le mettre dans des rages de violence assez énormes. Et il y a la fille à papa. Alors elle, c'est la femme fatale. Vraiment, elle a des fêlures qu'on sent, mais elle est brute de pomme. C'est-à-dire qu'elle est, elle c'est vraiment le bras armé de la famille, le bras armé de son père. C'est-à-dire qu'elle ne recule devant aucune bassesse pour protéger sa famille. Elle picole, elle saute sur tout ce qui bouge, mais elle est une Amazone. C'est-à-dire qu'elle est droite dans ses bottes, elle est libre de son corps et de sa tête et de ce qu'elle fait. Et donc vraiment, elle est aussi bestiale que toxique dans les premières saisons, dans la première et le début de la deuxième saison. Elle est jouée par Kelly Riley, qui est absolument géniale. Alors elle est aussi belle extérieurement, parce qu'on la voit régulièrement très dévêtue, que son rôle de femme fatale glaçante. Elle est vraiment top. Alors vraiment, c'est... Les deux premières saisons sont vraiment bien. Nous, on a trouvé, c'était sympa. En plus, on suit, en film choral, en genre de chorale, on suit pas mal de personnages, parce qu'on suit, bon, bien sûr, la famille Dutton, mais on suit aussi les gens qui travaillent sur le ranch. Donc, on voit les cow-boys modernes, la dangerosité de leur travail, leur mode de vie, la vie au quotidien, ce côté, on va dire, mode de vie... des hauts plateaux, des plaines, etc., et du Montana, et de ce côté culturellement cow-boy. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. On sent hein, que ça va mal se terminer, et que franchement, il va y avoir des clashs, et que du simple grouillot à la tête de pont, ça va mal se terminer pour certains. Honnêtement, on a hâte de voir les... trois autres saisons, même si on a peur qu'il y ait une embryon d'histoire d'amour un peu cucul à praline qui nous débarque. Et on la sent mal, celle-là. Mais bon, après, le lutin trouve que ça serait bien. Moi, je trouve que ça serait pas top. Mais bon, hein, voilà, chacun son goût. Sinon, les personnages féminins, enfin, tous les personnages sont très, 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 très bien écrits. Vraiment, parce que, comme je vous dis, du simple grouillot au patriarche, tout le monde a son développement, tout le monde a son passé, son avenir, son présent, ses fêlures, ses forces, ses envies, ses échecs. Et il y a deux femmes qui surnagent au-dessus de ça. Donc, on en a déjà parlé, la Beth Dutton, donc la fille à papa, femme fatale. Et on a là, donc, la femme du Benjamin, donc, qui est jouée par l'actrice Kelsey Asbill, qui, donc, joue cette jeune femme amérindienne, qui a un développement qui va être très, très bon, je pense. Nous, on l'aime beaucoup, parce qu'elle est à la fois très forte et très déchirée dans ses convictions. Mais vraiment, c'est une jeune femme très intéressante, ce personnage. Voilà, donc c'est Yellowstone. Bon, je ne sais pas si... on va regarder les trois dernières, hein, c'est sûr, et c'est évident, mais On verra bien. Alors, petite pause musicale avec The Temptation, Papa Was a Rolling Stone. Bah oui, pour Yellowstone. Oh bah, on fait ce qu'on peut. Et on finira donc par le documentaire. Et quel documentaire ?
September, that day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him. Never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home.
And when he died,
all he left us was alone. Oh, Papa was a rolling stone, my son, yeah. Wherever he laid his hat was his home.
And when he died,
all he left us was alone. What to say that Papa never worked a day in his life.
And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.
Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing.
Mama just hold her head and say,
Papa was a rolling stone,
my son.
Wherever he laid his hat was his home.
And when he died,
all he left us was alone.
Hey,
Papa was a rolling stone.
That coming.
Wherever he laid his hat was his home.
And when he died,
Mama, I heard Papa call himself a jack of all trades. Tell me, is that what sent Papa to an early grave?
Folks say Papa would beg, borrow, steal to pay his bills.
Hey, Mama, folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking.
Mama looked up with a tear in her eye and said, son,
Papa was a rolling stone.
Well, 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 well.
Well, when he laid his hat, yeah, yeah, was his home. And when he died,
all he left us was a long, 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 long.
Papa was a rolling stone. Well, when he laid his hat, was his home. And when he died,
juste vous signaler un documentaire. On va pas faire 50 ans dessus, mais je peux vous assurer que si vous aimez l'artiste, il va falloir le regarder. C'est sur MyCanal, ça s'appelle Stans. C'est un documentaire qui évoque les fans, donc les Stans, hein, qui rentraient dans le dictionnaire de Oxford English Dictionary, qui parle, en fait, qui explique ce qu'est un fan obsessionnel et instable. Et on parle bien sûr d'Eminem. Donc c'est un documentaire qui fait la part belle à des fans. Qui explique leur relation avec l'artiste. Et de l'autre côté, il y a une interview de Marshall Mathers, puisque c'est son nom, son vrai nom, son patronyme, qui, comprend hein, ce genre de truc, mais comme c'est quelqu'un de très discret, dont l'image privée ne s'étale pas, sauf son personnage de Slim Shady, et donc ce Eminem, qui est le rappeur, mais Marshall Mathers, on le voit pas dans les magazines à sensation et très rarement dans les soirées sauf promo. Moi, j'ai trouvé très touchant, on a trouvé très touchant les témoignages de ces femmes, de ces fans qui sont sensibles et aimants, et en fait qui s'accrochent à l'artiste, alors à ce qu'il produit comme musique, à ce qu'il est, à son personnage, à ses paroles, parce que, bah, comme ils le disent, c'est pour vivre mieux, vivre des fois carrément moins mal, ou survivre à des horreurs qu'ils ont vécues dans leur vie, qui quelquefois font écho à la vie de Marshall Mathers, qui n'a pas une vie très linéaire non plus. Si vous avez vu 8 Miles, vous comprendrez. Et lui, il comprend les sentiments hors normes de ses stans, mais ça le surprend toujours. Il est toujours incrédule face à son succès, face à cette dévotion qu'il suscite, et ça l'étonne. Il y a un très joli moment de remerciement à la fin du documentaire par Eminem. Enfin, en tous les cas, c'est Marshall Mathers qui remercie. Moi, j'aime bien cet artiste. Voilà. Depuis My Name Is, moi, j'aime beaucoup, beaucoup Eminem. Donc, j'ai trouvé très, très touchant ce documentaire et son recul sur sa vie, sur ce qu'il a produit, sur ce qu'il produit, sur pourquoi il produit et aussi sur le fait de ses fans qui sont soutenus par une chanson, par un personnage, par quelque chose qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils pensent connaître. Et donc, voilà, c'est vraiment un très joli documentaire. C'est vraiment pour des fans passionnés. Alors, si vous êtes passionné d'un autre artiste, vous comprendrez. Si vous n'aimez pas Eminem, n'y allez pas, sinon c'est pas... Bah, aussi, quand même, voilà. Parce qu'il y a quand même pas mal de paroles, etc. Et puis, si vous ne savez pas quel est le morceau Stan de l'artiste, bah, allez l'écouter, parce que c'est une histoire dramatique d'un fan, mais qui montre bien à à quel point certains fans peuvent aller uniquement pour un artiste qu'ils ne connaissent pas, mais sur lequel ils s'identifient. Voilà. Donc, ça s'appelle Stan, c'est sur My Canal. Écoutez, vous verrez bien. Écoutez, c'est l'heure de se quitter. Oui, ah ben on va se quitter. On va se dire à la semaine prochaine pour nos coups de cœur littéraires. Et j'en ai eu un qui est vraiment au-dessus du lot, et ce que je lirai en octobre. Et puis, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Nous, vous savez que sur Liberté FM, on s'occupe de vos petites oreilles et vous vous occupez de vous, de vos proches, de ceux que vous aimez. Et puis, qui d'autre pour se quitter en musique? Bah, Eminem, évidemment. Bah, oui, oh, bon, c'était facile, c'était facile. Ça, c'est Eminem qui est en duo avec Rihanna. Excusez du peu quand même. Sur le titre de Monster. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous. Ciao. Et bonne semaine sur Liberté FM.
I'm friends with the monster, the sound of my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy.
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too, and wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I flew sleep. And it was confusing, cause all I wanted to do is be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh-wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm
friends with the monster.
Much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it, cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from.
Yeah, ponder it, do you wonder? It's no wonder you're losing your mind the way it wanders.
I think you've been wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren, cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict, cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. My OCD's talking me in the head, keep knocking. Nobody's home, I'm sleepwalking. I'm just relaying what the voice in my head saying. Don't shoot the messenger, I'm just
I'm friends with
the
monster, the son of my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair.
Call me crazy, but I had this vision. One day that I'll walk amongst you, a regular civilian. But until then, drums get killed and I'm coming straight at MC's blood gets spilled. And I'm taking back to the days that I get on a Dre track. Give every kid who got played that pump the feeling and shit to say back to the kids who played them. I ain't here to save the fucking children, but if one kid out of 100 million who are going through a struggle feels it and relates, that's great. It's payback. Russell Wilson falling way back in the trap. Turn nothing into something, still can make that. Straw in the gold chump, I will spin. Rumpelstiltskin in a haystack. Maybe I need a straight jacket, face facts. I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still
friends with the monster, the sound of my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy.